Yes, www.rockick.com, rockick.com et Simi FM 103.7, la bande FM 103.7. On accueille aujourd'hui en direct de Belgique, j'espère que je me trompe pas, Johan Bourlard et le père Samuel. Ismaël Trépanier, votre maréchal, je vous dis salut à vous deux. Comment allez-vous ce matin? Enfin, début d'après-midi pour vous.
Bien, maréchal.
Merci de m'appeler maréchal, monsieur.
Merci, Ismaël.
Monsieur Bourlard et monsieur, père Samuel, je vous salue. Je vous salue bien bas.
Nous vous saluons aussi.
D'accord. Anne-Marie Delcombe, qui n'est pas avec vous, je crois qu'elle sera là peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines, quelque chose comme ça?
Oui, je pense. Cette semaine, elle avait un petit empêchement, donc on verra pour la suite. Mais aujourd'hui, donc, le père et moi allons assurer la permanence.
Ah, ben, je suis certain que...
Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez.
D'accord. Alors, le sujet, probablement, que vous avez déjà prédéterminé, dont vous allez nous faire part aujourd'hui, je vous laisse ouvrir, bien sûr, la marche.
Bien. Aujourd'hui, nous avons décidé, le père et moi, de parler de l'un ou l'autre sujet intéressant évoqué dans le Coran.
D'accord.
Le Coran, livre sacré des musulmans, qui est, je vous le rappelle, la base de la loi islamique, une loi que certains pays musulmans appliquent toujours et que certains musulmans militants en Occident cherchent à faire appliquer ici en Occident.
Bon, juste avant que je m'excuse à vous deux, juste pour le rappeler aux auditeurs de rockick.com et de Simi FM, je vous donne numéro de téléphone aux auditeurs, le 670-9001, et pour nous appeler, pour pouvoir poser vos questions, ou encore le 1-888-624-1037, alors le 1-888-624-1037. Les adresses pour poser vos questions au Père Samuel et à Joanne Bourlard, live@rockick.com, soit pour MSN ou soit pour Skype. Alors, c'est parti, je vous écoute, allez-y.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié dans le Coran, de la femme adultère, de la flagellation et de l'apostasie. Joanne, je vous pose une question. Au commencement de l'islam, la femme adultère, elle était séquestrée jusqu'à la mort. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Oui, donc dans la sourate 4, la sourate qui s'intitule « Les femmes » An-Nisa, il est tout d'abord dit que la femme adultère, et uniquement la femme adultère, il n'est pas question de l'homme, aura pour punition l'enfermement à vie. Ça se trouve dans la sourate 4, verset 15. « Enfermer les coupables jusqu'à leur mort dans des maisons, à moins que Dieu, Allah donc, ne leur offre un moyen de salut. » Ça, c'était la première disposition prévue par le Coran. Et ensuite, on s'est dit que c'était pas suffisant, donc on est passé à une vitesse supérieure. Et dans la sourate 24, sont arrivées une autre série de prescriptions, parmi lesquelles, mon père...
Après, un autre verset coranique est venu modifier la première disposition en ordonnant la flagellation des personnes adultères. Par exemple... Le Coran, chapitre 47, verset 2, dit ceci. Chapitre 24, verset 2, « Frappez la débauchée et le débauché de 100 coups de fouet chacun. N'usez aucune indulgence envers eux afin de respecter la religion de l'islam. » C'est vraiment horrible.
Alors, donc on voit ici que le Coran prévoit la peine de la flagellation, 100 coups de fouet pour l'homme et pour la femme adultère. Il faut dire aussi que le Coran, d'autre part, place l'adultère comme le crime le plus grave qui puisse être commis en dehors de celui de l'adoration de plusieurs dieux, par exemple le polythéisme, le fait d'associer à Dieu d'autres dieux, ça c'est le crime suprême, mais juste en dessous il y a le crime de l'adultère. Et donc, conformément à cette conception, non seulement l'adultère est un crime contre le mari ou la femme trompée, mais c'est aussi un crime contre l'ordre du monde établi par Allah. Et donc, le verset que le Père vous a lu stipule donc qu'il faut appliquer 100 coups de fouet à l'homme et à la femme coupable d'adultère, mais il faut en plus que ceux qui appliquent le châtiment n'usent d'aucune compassion pour les coupables. Parce qu'il est vrai que au fil des 100 coups, on voit les suppliciés faiblir, et donc ça pourrait peut-être susciter la compassion de la part des exécutants, mais non, Allah précise bien qu'il ne faut pas user de compassion, car le crime qui a été commis est un crime qui a été commis contre Allah aussi. Et il faut aussi, pour que ça serve d'exemple, que la peine soit exécutée en public.
D'accord.
Contrairement au Coran, livre sacré des musulmans, l'évangile des chrétiens, livre sacré du christianisme, rapporte la parole de Jésus, Christ notre Seigneur, à la femme adultère, en lui disant, « Madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. » Voilà la miséricorde de Christ. Voilà, le Christ était indulgence. Et le christianisme, vraiment, c'est la miséricorde même. L'évangile, c'est la miséricorde même. Le pardon même, contrairement au Coran. Le Coran, vraiment, c'est la tyrannie.
Oui, alors effectivement, on voit que dans le Moyen-Âge occidental, donc là où le christianisme imprégnait la loi des peuples, on sait que il n'y a jamais eu de mise à mort pour adultère ni de supplice. On imposait des amendes, on imposait des peines religieuses, je veux dire comme un pèlerinage, une pénitence publique, mais jamais de mise à mort et jamais de supplice. Et tout ça pourquoi? Parce que dans l'évangile, effectivement, on avait amené une femme adultère devant Jésus, et Jésus ne l'a jamais condamnée. Il lui a dit, bon, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Donc on voit là la différence. Dernière précision concernant l'adultère, il faut ajouter que aujourd'hui on lapide les femmes adultères dans les pays musulmans. Alors, on se dit, bon, pourquoi? Puisque le Coran prévoit la peine de la flagellation, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, comme je l'avais déjà dit les autres fois, je le répète, la loi islamique est composée de deux sources, le Coran, parole d'Allah, et la Sunna, qui reprend l'exemple donné par Mahomet. Or, dans cette Sunna, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mahomet a fait lapider des époux adultères, notamment un couple de juifs qui avait forniqué et qui était venu devant le prophète, on les avait amenés devant le prophète, et le prophète leur avait demandé « Et que dit votre loi ?» Donc la loi juive. Ben, la loi juive prévoit la lapidation. Eh bien, alors que vous soyez lapidés. Et donc, il les a fait lapider conformément à la loi juive, qui, à l'époque de Mahomet, n'appliquait plus la lapidation. Mais Mahomet, qui prétendait être le nouveau Moïse, qui prétendait être le restaurateur de la vraie religion, a rétabli la peine de la lapidation pour les époux adultères. Okay. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, en islam, quand la loi islamique est rétablie, eh bien, le châtiment prévu pour les époux adultères, c'est non pas la flagellation, comme le dit le Coran, mais la lapidation, puisque Mahomet l'a montré de son vivant, quoi, et par son exemple.
Ok.
Alors, tournons la page. Oui, vous avez une question à poser?
Non, je ne faisais qu'acquiescer ce que Joanne Bourlard disait. Je vous écoute, Père Samuel.
Ça va, eh bien, tournons la page au sujet de la femme adultère en islam. Mais l'islam, toujours, c'est la tyrannie, absolument, adultère ou pas, c'est la tyrannie. L'islam, c'est le fléau. Venons, par exemple, l'amitié dans le Coran. Jean, ce qu'il dit, le Coran, au sujet d'amitié, qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'amitié entre les juifs ou les chrétiens ou entre les musulmans? Je vous écoute.
Concernant les relations que les musulmans doivent entretenir avec les non-musulmans, le Coran pratique une certaine ségrégation, puisqu'à plusieurs reprises, il interdit tout lien d'amitié entre musulmans et non musulmans. Par exemple, sourate 3 verset 28, que les croyants, c'est-à-dire les musulmans, ne prennent pas pour amis des incrédules, de préférence aux croyants. Celui qui agirait ainsi n'aurait rien à attendre d'Allah. Donc il est clair que dès le départ, le musulman ne peut pas prendre un juif ou un chrétien pour ami, sauf si le musulman étant en état de faiblesse, ou s'il a besoin d'être soutenu par l'un ou l'autre non-musulman pour arriver à ses fins, alors là, à ce moment-là, oui, pour une question d'intérêt, il peut éventuellement nouer certaines relations, mais cela, c'est tout à fait provisoire, et l'idéal, c'est pas de lien d'amitié entre musulmans et non-musulmans.
Oui, Ismaël, quand on parle de l'amitié en islam, il ne s'agit en aucune manière d'une amitié entre tous les hommes, mais seulement entre les musulmans, conformément à ce que recommandent plusieurs versets du Coran, livre sacré des musulmans. Que les croyants musulmans ne prennent pas pour amis les incrédules, c'est-à-dire les athées, les incroyants, les agnostiques, les libres penseurs, les francs-maçons, de préférence aux musulmans. Celui qui agira ainsi va être châtié par Allah. Allah, c'est le Dieu des musulmans, ce n'est pas notre Dieu, attention. Deuxième verset du Coran, effectivement, chapitre 4, verset 144. Oh, vous qui croyez musulmans, ne prenez pas les non-musulmans pour amis, de préférence aux musulmans. Voudriez-vous qu'Allah vous châtie? Faites attention. Allah, le Allah des musulmans, c'est vraiment, c'est un guerrier contre tout ce qui n'est pas musulman. Mais Allah des musulmans, je précise, ce n'est pas notre Dieu.
Oui, à ce propos, je l'amitié, donc il y a surtout le verset 51 de la sourate 5 qui établit clairement que les musulmans ne peuvent pas prendre pour aoulia les juifs et les chrétiens. Alors qu'est-ce que c'est que ce aoulia? C'est un terme qui peut être traduit de plusieurs façons, il y a plusieurs traductions. Ça peut être un lien, ça peut être un ami, ça peut être un allié, ça peut être un associé, ça peut être un patron. Donc c'est un mot qui recouvre plusieurs sens, et là on voit que non seulement on ne peut pas se lier d'amitié avec les juifs et les chrétiens, mais on ne peut même pas entretenir une relation de patron à ouvrier ou d'associé. Donc ce terme recouvre beaucoup, beaucoup de choses.
Effectivement, dans le verset 5, le chapitre 5 du Coran, verset 51, traduction d'un musulman, Sadok Mazik, dit ceci. Ô croyants musulmans, ne prenez point pour allier les juifs et les chrétiens. Pour le Coran, les juifs et les chrétiens sont des gens pervers et corrompus. Surtout, ne les prenez pas. Ce qui veut dire, quand les musulmans deviennent majorité, ne prendront jamais ni patron, ni aulia, ni chef, et ils ne peuvent être dominés par les non-musulmans.
Alors on se dit que, bon, le Coran stipule que les musulmans ne peuvent pas se lier d'amitié avec les juifs et les chrétiens, et les non-croyants en général. Bon, à la rigueur, ça pourrait encore passer si on nous laissait tranquilles. Mais voilà, par exemple, si vous prenez ailleurs dans le Coran, sourate 48, verset 29, qu'est-ce qu'on dit ? Mahomet est l'apôtre d'Allah. Ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les musulmans, sont violents à l'égard des infidèles et compatissants entre eux. Donc il y a là une recommandation expresse que les musulmans doivent se montrer violents, d'une manière ou d'une autre, envers ceux qui ne croient pas en leur religion, envers ceux qui ne sont pas musulmans. Donc c'est là que ça devient grave. Donc non seulement le Coran interdit aux musulmans d'avoir de l'amitié envers un juif ou un chrétien, mais en plus le Coran ordonne à ce musulman d'être violent et d'exercer une certaine oppression sur celui qui ne pratiquerait pas la même religion que lui.
Effectivement, encore dans le Coran, il est écrit, chapitre 9, verset 71, comment on dit en français, Johan ?
Sourate 9, verset 71.
71. Ah. Les croyants musulmans,
oui,
et les croyantes, hommes et femmes, sont des amis des uns des autres. Ils doivent obéir à Mahomet. Et qu'est-ce qu'il dit Mahomet au sujet des incroyants, au sujet des juifs tout particulièrement, chapitre 33, verset 61, tuez-les impitoyablement, ne les prenez ni amis, ni aulia, ni auxiliaires. C'est vraiment honteux de la part d'un prophète.
Voilà, donc ça c'est pour l'amitié dans le Coran, donc une amitié qui ne vaut qu'entre musulmans. Il y a d'ailleurs une parole de Mahomet qui dit « Les musulmans sont... seul le musulman est le frère du musulman. » Donc l'amitié, la fraternité ne vaut qu'entre musulmans.
« Al muslim akhul muslim » C'est vrai, en arabe, il dit ceci. C'est vrai, encore, un autre sourate du Coran, chapitre 60, verset 1, traduction de Masson. « Mahomet est l'apôtre d'Allah. Ceux qui sont avec lui, les musulmans, sont des violents. Oh, vous les musulmans, ne prenez pas pour patron mes ennemis. » C'est-à-dire Allah des musulmans, tout ce qui n'est pas musulman, les considère des ennemis, des incrédules. Et sont les vôtres aussi, sont vos ennemis aussi. Ne les prenez jamais comme patron. Je précise, un jour viendra, les musulmans n'accepteront jamais comme chef d'État, comme maire, comme bourgmestre, chef ou leur chef ne peuvent jamais être dominés par les non-musulmans. Mais l'islam n'est pas pressé. Quand ils sont faibles, ils sont gentils. Quand ils deviennent forts, ils deviennent horriblement dangereux.
Oui, parce qu'il faut se rappeler que l'islam n'a jamais fonctionné en harmonie avec les autres religions. Et
avec les autres religions. La question d'un auditeur qui se dit est-ce possible qu'un musulman soit ami avec un juif ou un chrétien ou peu importe quelqu'un qui a la religion tibétaine, le Bouddha, ou enfin quelque chose comme ça.
disons, comme je vous le disais tout à l'heure, le musulman peut entretenir une certaine amitié avec un juif, un chrétien, si ce musulman n'est pas en situation de force et espère quelque chose en échange de la part de ce juif, ce chrétien ou cet incroyant. Mais normalement, la loi musulmane interdit formellement cette relation entre un musulman et un non-musulman. Ça, c'est clair. Et quand, évidemment, maintenant, les musulmans sont encore dans une relative minorité en Europe, minorité numérique, minorité démographique, mais un jour viendra où le jour où ils prendront la majorité, là, il n'y aura plus grand-chose à espérer d'eux en matière d'amitié.
On nous pose question, Joanne Bourlard, pardon, et M. Père-Samuel, à tour de rôle, qu'est-ce qu'on peut observer comme type d'échange entre un musulman et un juif, par exemple? Qu'est-ce qui peut, jusqu'où ils peuvent aller au niveau de leurs échanges, au niveau de l'amitié qu'ils peuvent s'attribuer entre les deux?
Oh, ça ne peut pas aller bien loin. Je veux dire, les relations, elles sont peut-être, des relations commerciales, par exemple, quand l'intérêt financier est en jeu, il y a toujours moyen de faire des affaires, mais c'est très très limité et de toute façon, un musulman ne pourra jamais respecter un juif. Un musulman qui veut respecter ses textes ne pourra pas respecter un juif. C'est pas possible.
Oui, parce que Mahomet a dit, tout juif tombe sous vos mains, tuez-le. Tandis que Jésus-Christ a dit, le salut vient des Juifs. Il est écrit dans l'évangile Saint Jean, chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Mahomet dit le contraire. Tout Juif tombe sous vos mains, tuez-le. Mahomet, c'est le prophète des musulmans.
Alors, à ce propos, je vous laisse imaginer un peu le mal qu'ont eu certains chrétiens à ne plus mépriser les Juifs.
Est-ce que on peut calculer que le chrétien ou le bouddhiste ou le juif vont être sur le même piédestal pour eux pour le musulman quoi?
Oui, bah ils seront mis sur un pied d'égalité, mais certainement pas un piédestal, un pied d'égalité, mais une égalité, une égalité médiocre. Ils seront tous mis, disons, juifs et chrétiens seront mis sur un plan. Un statut inférieur qu'on appelle le statut du vimmi, c'est-à-dire le protégé, mais protégé de quoi? Mais protégé de leur vie et leurs biens sont sous l'emprise des musulmans si jamais ils ne respectaient pas l'islam, si jamais ils faisaient preuve de d'impolitesse vis-à-vis d'un musulman, ils ne seraient plus protégés et là ils tomberaient sous le coup de la loi musulmane qui les condamnerait. Mais c'est ça cette égalité, une égalité de citoyens de seconde zone. Il n'y a pas d'égalité avec le musulman.
Effectivement, le Coran ne parle pas des bouddhistes. Le Coran et l'islam ont trois ennemis, les athées, les juifs et les chrétiens. Parce que dans le Coran, il est écrit, les athées doivent être combattus, chapitre 9, verset 29. Les juifs doivent être tués, chapitre 33, verset 61, dans le Coran, livre sacré des musulmans. En ce qui concerne les chrétiens, tout chrétien qui croit à la Trinité, c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, sont des infidèles. Lorsque vous les rencontrez, tuez-les au point d'en faire un grand carnage. Il est écrit dans le Coran, livre sacré des musulmans, chapitre 47, verset 4. Mais au sujet des bouddhistes, le Coran ne parle pas.
Oui, c'est pour ça que il n'y a pas de loi, je vais dire, au niveau islamique concernant les bouddhistes, parce qu'évidemment, le bouddhisme n'est pas mentionné dans les sources du Coran, il n'y a pas. Mais bon, il faut pas se leurrer, hein. Les bouddhistes n'étant pas musulmans, ben ils n'auront pas un meilleur sort que les juifs ou les chrétiens. Hein. Et la preuve, on le remarque en Afghanistan, qu'ont fait les talibans qui ont pris la loi islamique à la lettre, ben ils ont détruit les bouddhas, les fameuses statues qui dataient de je ne sais combien de siècles, qui étaient des monuments.
D'accord.
Oui, donc là, pour eux, c'est une idolatrie de prier devant une statue, c'est une idolatrie. Donc ces bouddhas là qui étaient des monuments, un patrimoine culturel de l'humanité, eh bien ils les ont détruits sans aucun complexe. Pourquoi? Parce que la loi musulmane interdit clairement la représentation humaine sous forme de statue, par exemple.
D'accord.
Oui, quand l'islam domine. Il y a trois conditions au sujet des juifs et des chrétiens et des athées. Les athées doivent être absolument soit convertis immédiatement, soit massacrés. Les juifs et les chrétiens doivent payer l'impôt, la jizya. jusqu'à l'appauvrissement. Alors quand ils sont devenus pauvres, il y a la guerre contre les juifs et les chrétiens, et sinon doivent convertir à l'islam. Donc l'islam c'est impitoyable au sujet des juifs, des chrétiens et des athées. Ça s'appelle des vimi, c'est-à-dire tolérés mais pas libres, deuxième classe dans la société islamique.
On nous dit via Joanne Bourlard et Père Samuel, on nous dit via le live@rocket.com, auditeur français, nous avons en France une ministre Fadela Amara, musulmane, qui a déclaré sans rire que le premier féministe fut Mahomet. Est-ce que c'est vrai ça?
Oui, mais de toute façon, les musulmans ont cette tendance à vouloir tout s'attribuer. Selon eux, ils ont le Coran, Mahomet, ont tout inventé, ont tout prévu. Alors moi je me demande par exemple s'ils ont tout prévu, je me demande comment ça se fait qu'ils ont attendu les Américains et les Britanniques au début du XXe siècle pour trouver le pétrole qu'ils avaient sous leurs pieds depuis tant de siècles. Voilà, un exemple. Mais concernant donc le féminisme prétendu de Mahomet, le seul point disons positif qu'on aurait pu lui attribuer, c'est d'avoir limité la polygamie à 4 épouses. Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui soutiennent que quand Mahomet est arrivé, donc du temps de Mahomet, l'Arabie étant polythéiste, les hommes pouvaient épouser autant de femmes qu'ils voulaient. Et donc les musulmans se font une gloire de dire, mais voyez, dans le Coran, le nombre d'épouses a été limité à 4. Mais bon, je ne trouve pas ça très 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 pertinent, parce que qu'est-ce qu'on sait de Mahomet durant la première partie de sa vie, quand il n'était pas encore prophète, qu'il n'avait pas encore reçu la révélation? Il avait épousé une riche veuve qui s'appelait Khadija et dont l'oncle était prêtre, était chrétien. Et du temps où Mahomet était l'époux de cette femme, il n'a jamais eu d'autres épouses. Donc la polygamie n'était pas peut-être si généralisée que cela, et les cas de monogamie, le fait pour un homme d'avoir une seule femme, existaient aussi en Arabie, car il y avait des juifs et des chrétiens, et on sait que les juifs et les chrétiens n'épousaient pas plusieurs femmes.
Autre Donc, chose oui. aussi, pourtant, de votre côté, nous dit-on, via live du côté de la Belgique, on peut voir, on voit chez nous des musulmans qui sont amis avec des Européens. Qu'en est-il? Sont-ils sincères? Est-ce qu'il y a de l'honnêteté là-dedans?
Les amis, par intérêt, quand l'islam est faible, il est capable de devenir votre ami pour travailler, pour prendre votre nièce comme femme, pour la convertir à l'islam, et ça c'est par intérêt, il devient des amis. Mais quand il devient fort et forte, ils sont impitoyables. Au sujet de Mahomet, question d'être féministe ou pas, c'est vrai, il aimait une fille de 6 ans, Aïcha, il la dévirginisa quand elle avait 9 ans, et il avait 15 femmes et 66 concubines. Alors, de grâce, s'il vous plaît, arrêtons toutes ces comédies.
Voilà, donc c'est vrai que quand on étudie un peu le Coran, l'histoire des origines de l'islam, la vie de Mahomet, et qu'on entend que Mahomet était un féministe avant la lettre, ça nous fait rire, enfin, c'est aberrant.
Je ne suis pas d'accord, Johan, avec vous, quand vous dites avant que Mahomet reçoive la révélation. Mahomet n'a jamais reçu la révélation, absolument jamais. C'était un moine hérétique qui disait, dites ça, dites cela, dites ceci. C'est faux. C'est après Jésus-Christ, Dieu ne peut pas envoyer 6 siècles après Jésus-Christ un prophète, un Mahomet guerrier, chef de guerre, guerrier lui-même, qu'il a fait 66 guerres. Il a égorgé 900 juifs. Arrêtons, s'il vous plaît. Ouais. L'islam n'est pas ni paix, ni amour, ni tolérance de grâce, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne croient pas à la révélation, évidemment, on ne peut pas dire que Mahomet a reçu la révélation, mais je parlais par commodité de langage pour ne pas commencer à me lancer dans des explications, mais disons que, oui. C'est vrai. Pour un chrétien, pour un juif, c'est pas possible. Mahomet ne peut pas avoir reçu une révélation qui contredit en de nombreux points les religions qu'il était censé venir confirmer. Je vous rappelle qu'il se présente comme le sceau des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie, celui qui vient accomplir tout ce qui n'a pas encore été fait par les juifs et les chrétiens. Or, on voit qu'en fait, il n'accomplit pas, au contraire, il détricote, il déstructure, il démantèle les religions qui l'ont précédé et il en bâtit une nouvelle. Et il fait avec ce qu'il a repris de briques et de brocs chez les juifs, chez les chrétiens, chez les païens arabes.
Donc, mais parfois, ils paraissent tellement gentils, tellement ambitieux. Comment fait-on pour rester froid ou je ne sais pas comment devrions-nous réagir de par cette attitude?
C'est vrai, il y a des versets dans le Coran, ce sont des versets de miséricorde aussi, mais ces versets de miséricorde sont abrégés complètement. Il est écrit même dans le Coran, Mahomet était envoyé comme miséricorde pour le monde. Il était un tueur à gages, Mahomet. Il était absolument un tueur à gages. Il a tué plusieurs poètes qui étaient contre lui. Et il détestait aussi les dessinateurs. Donc, il n'était pas ni miséricorde, il était seulement tueur à gages. Et vraiment, il a fait 66 guerres.
En fait, il n'avait de miséricorde que pour ceux qui s'agenouillaient devant lui et qui se mettaient à plat ventre en lui demandant humblement pardon. Alors là, oui, là, il était miséricordieux. Mais pour ceux qui osaient le critiquer, qui osaient dire non, je ne suis pas d'accord avec vous et qui maintenaient leur position, pour ces gens-là, il n'avait aucune pitié, bien évidemment. Donc, en fait, ce qu'il faut faire quand un musulman commence à vous dire que Mahomet était un féministe ou que l'islam a inventé les droits de l'homme il faut leur montrer que qu'on ne les croit pas, il faut leur montrer qu'ils racontent n'importe quoi, il faut et bon et pour ça ben il faut connaître. Et donc à partir du moment où on connaît, à partir du moment où on leur rétorque, où on leur répond du tac au tac, qu'on leur dit vraiment ben non ce que vous dites c'est faux parce que ça 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 et ça, eh bien à ce moment-là, ils changent d'attitude vis-à-vis de vous et ils se montrent très vigilants et à la rigueur, je dirais même peut-être même plus respectueux vis-à-vis de vous, parce qu'ils savent que vous savez, et donc là, il y a un peu de respect qui apparaît chez eux. Mais ce respect reste toujours relatif, bien évidemment.
C'est vrai, de temps en temps, je reçois chez moi les musulmans, ils disent, mais vous savez énormément de choses au sujet de l'islam, de A à Z. C'est vrai, nous sommes spécialistes de l'islam, et nous avons le droit de parler vraiment. Donc, après Jésus-Christ ne peut pas y avoir des prophètes, ou alors des faux prophètes. C'est absurde de la part de Dieu, de la Bible, des chrétiens et des juifs, qui va envoyer un prophète qui va combattre les juifs et les chrétiens. L'islam, vraiment, c'est la négation du christianisme totalement. Donc, et l'islam, ça va être le problème du monde entier, vraiment. Donc, l'islam doit être combattu absolument, cette idéologie dictatoriale.
Voilà, Ismaël.
Oui.
Avez-vous d'autres questions concernant ce sujet?
Oui, exactement. Oui, j'en ai d'autres questions. Par exemple, nous dit-on via le live@arbasroquet.com, pourquoi selon vous les musulmans ont une relation moins tendue avec les bouddhistes, hormis le fait qu'on ne parle pas des bouddhistes dans le Coran? Pourquoi les gens se posent la question, pourquoi c'est toujours un côté acharné sur le dos des juifs? Pourquoi il y a autant de haine envers ce peuple?
Oui, bien parce que tout simplement, les bouddhistes n'habitent pas au même endroit que les musulmans. Historiquement parlant, les zones de contact sont inexistantes ou très faibles, je vais dire. Les bouddhistes sont du côté de l'extrême-orient. Les musulmans, eux, sont au Proche et au Moyen-Orient. Historiquement parlant, il n'y a pas lieu de se confronter au départ, puisque les zones géographiques sont tout à fait différentes.
Deuxièmement, les bouddhistes n'ont pas un livre sacré. C'est ça? Les bouddhistes n'ont pas un livre sacré, les juifs et les chrétiens ont des livres sacrés, et ils combattent d'une certaine manière. Mahomet, c'est pas possible qu'après la Bible, après l'évangile, que Mahomet vient comme ça, il va créer un Coran qui était enseigné vraiment par un moine hérétique chrétien. Donc, les musulmans, ils détestent les juifs et les chrétiens, mais les bouddhistes, à la rigueur, non, parce que les bouddhistes ne convertissent pas non plus. Les juifs non plus ne convertissent pas. Il n'y a pas de prosélytisme. Mais parce que les juifs et les chrétiens sont dans le Coran, ils les détestent. Aussi les masdéens. Aujourd'hui, il n'y a plus de masdéens dans le monde, pratiquement pas.
Oui, donc, et les juifs donc sont détestés parce que Mahomet a enseigné aux musulmans à détester les juifs, tout simplement. Puisque Mahomet lui-même a éliminé peu à peu, progressivement, les différentes tribus juives qui peuplaient la ville de Médine. Et il a même enseigné à ses disciples, les premiers musulmans, qu'aucun musulman, aucun juif et aucun chrétien ne pouvait demeurer dans la péninsule arabique. Et aujourd'hui, en Arabie, il est interdit de pratiquer tout autre culte que l'islam. L'Arabie est comme une immense mosquée à ciel ouvert où tous les cultes sont interdits, tous sauf un, l'islam. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est écrit dans les textes fondateurs, ouais. C'est Mahomet qui l'a recommandé.
J'ai ici un article qui m'est été qui vient de tout juste de m'être envoyé par un auditeur français. Vous vous rappelez peut-être, je crois que c'est la date du 17 septembre 2006 exactement, enfin en 2006, le grand rabbin d'Israël qui critique les propos du pape, qui dirait carrément que les déclarations du pape Benoît XVI va à l'encontre de la religion musulmane et n'en finissent pas de susciter des réactions de par le monde, de prenant parti contre les propos trop radicaux du pape, le grand rabbin. C'est Farad ou quelque chose comme ça d'Israël, le Rav Shlomo Amar, qui avait adressé à une des plus hautes personnalités de l'islam sunnite un courrier exposant sa position, qui disait carrément que même lorsqu'il existe des conflits entre les peuples, il ne faut pas les transformer en guerre de religion, poursuit le grand rabbin, et il disait carrément en réalité, nous savons, poursuit-il, que la guerre entre juifs et musulmans est l'œuvre de Satan. Nous savons que l'islam recherche, dis-je, la paix. Joanne Bourlard, Père Samuel, vous en pensez?
Oui, mais c'est encore de l'intox. On dit souvent l'islam veut dire paix. Islam ne veut pas dire paix. La paix en arabe se dit salam. Islam, qui est de la même racine, salama, ouais. La racine salama, ne veut pas dire paix. Il veut dire soumission. Islam veut dire soumission. Soumission à qui? À Allah peut-être, mais aussi à Mahomet et à ses troupes. Parce que l'islam étant né avec le djihad, avec la guerre, oui. La soumission consistait à se soumettre à Allah, mais aussi à Mahomet et à ses troupes, à ses soldats. Concernant l'islam qui recherche la paix, c'est la paix par la guerre d'abord. Ensuite, quand le rabbin ou quelqu'un d'autre s'offusque des paroles du pape Benoît XVI, je rappelle que le pape Benoît XVI avait prononcé un discours sur le rapport entre foi et raison à l'université de Ratisbonne, et qu'au cours de son discours, il avait cité la phrase d'un empereur byzantin, Manuel de Paléologue, qui, confronté à un musulman, lui disait « Montre-moi que Mahomet ait rien institué de neuf. Tu ne trouveras rien que de mauvais et d'inhumain, tel ce qu'il statue en décrétant de faire progresser par l'épée la croyance qu'il prêchait. »
Autre voilà. Auditeur, Joanne Bourlard, merci. On en a parlé beaucoup, un autre auditeur nous écrit ceci. On en a parlé beaucoup, mais qu'advient-il de l'hindouisme face aux musulmans? Est-ce la même chose que le bouddhisme? C'est bien beau de dire qu'elles n'ont pas de livres sacrés, mais ce sont des religions quand même qui fait que l'islam vont vouloir un jour convertir les orientaux. C'est bien ça le but de l'islam, convertir tout le monde à Allah?
C'est la même chose, effectivement, mais entre l'islam et les Indiens, il y a une nervosité, il y a une adversité horrible, parce que l'islam était en Inde à partir de 711-713, il voulait envahir l'Inde entière.
Oui, il y avait
qu'avec c'est bien avant que la reine décide d'essayer de rentrer là-bas, c'est ça?
La reine, de quelle reine s'agit-il?
La reine d'Angleterre, bien sûr, je pense que c'était Elisabeth.
Oui. Donc avant que l'Inde ne devienne britannique.
Britannique,
Elle a été soumise pendant plusieurs siècles à une puissance musulmane, l'Empire Moghol. Oui. Et durant laquelle l'islam a pénétré assez fort en Inde, à tel point qu'aujourd'hui, l'Inde est, sur le plan démographique, sur le plan du nombre des musulmans, le troisième ou quatrième pays musulman du monde, après l'Indonésie et le Pakistan. Mais évidemment, l'Inde étant peuplée de plus d'un milliard d'habitants, oui. La proportion d'habitants en Inde musulmane tourne autour des 10, 15, 20%. Mais je veux dire, en nombre absolu, le nombre de musulmans en Inde dépasse celui de beaucoup de pays, et l'Inde arrive en troisième position. Et évidemment, l'hindouisme est rejeté par les musulmans, évidemment, puisque l'hindouisme, c'est un polythéisme. Il y a de nombreux dieux dans cette religion. Ils ont également des livres, mais cette religion est une religion polythéiste. Et donc, pour les musulmans, ça, c'est une chose abominable qui n'est pas question d'accepter. Donc, là aussi, les confrontations sont dures. Et c'est ce qui a d'ailleurs mené à l'éclatement des Indes britanniques, puisque dans les années 40, le Pakistan a fait sécession. les Pakistanais, qui étaient majoritairement musulmans, n'ont pas supporté de vivre aux côtés des hindous, des hindouistes, et donc ils ont fait sécession, ils ont déclaré l'indépendance du Pakistan. Même chose de l'autre côté des Indes, au Bangladesh, dans les années 70, où là aussi le Bangladesh étant peuplé d'une majorité de musulmans, n'ont pas supporté la vie en commun avec les hindouistes, et ont eux aussi déclaré leur indépendance. Et c'est comme ça partout. Regardez, en Europe, le Kosovo, c'est pareil, une majorité d'immigrés albanais musulmans qui ne supportaient plus de vivre dans un état serbe de culture chrétienne orthodoxe, eux aussi ont réclamé leur indépendance. Même chose dans le sud de la Thaïlande ou dans les Philippines, où on a des mouvements musulmans indépendantistes qui naissent, qui apparaissent et qui tôt ou tard arriveront eux aussi à leur fin si on continue sur cette voie-là.
Vous voulez dire tôt ou tard en Europe même ça va arriver comme ça?
Mais oui, là où l'islam est majoritaire, je ne vois pas ce qui pourrait les retenir, étant donné que nous, on applique la politique de la carpette, on se met à plat ventre et on ne dit rien. On croit tout ce qu'ils disent, on croit leurs bonnes paroles, mais ce n'est pas vrai.
Parce que Mahomet a dit, l'islam domine et ne serait pas dominé. C'est vrai au sujet du pape, vous parliez tout à l'heure, notre pape Benoît XVI, il est écrit dans le Coran, Livre sacré des musulmans, chapitre 5, verset 33. Si quelqu'un parle contre Mahomet ou contre Allah, le Dieu des musulmans, ce n'est pas notre Dieu, crucifiez-les, flagellez-les, ces hommes et ces femmes-là, coupez leurs mains et leurs pieds alternativement. Donc c'est pour cela, par exemple, ils ont fait tant de manifestations dans le monde entier, parce que le pape a dit quelques mots au sujet de Mahomet, et de Dieu des musulmans. Donc, chapitre 5, verset 33, si quelqu'un est contre Allah, Dieu des musulmans, contre Mahomet, crucifiez-les, coupez leurs mains et leurs pieds alternativement, chassez-les du pays. Voilà la tolérance de l'islam que les Européens, de temps en temps, bêtement et naïfement, mais oui, l'islam est paix, amour et tolérance. Non, l'islam c'est la terreur, c'est la fléau, c'est la guerre contre tout ce qui est musulman. Quand ils sont forts, mais quand ils sont faibles, bien sûr, ils ne disent rien. Mais l'islam n'est pas pressé. Je vais vous donner quelque chose au sujet de chapitre 5, verset 33, Johan.
Oui, donc le verset que le Père a cité, et je le lis tout en long. Donc, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, Mahomet, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, notamment en prêchant des idées contraires à l'islam, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, donc c'est-à-dire si on vous coupe la main gauche, on vous coupe le pied droit, ou vice-versa, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc 5.33, donc comme si ça ne suffisait pas, donc en plus de ça, après la mort, eh bien encore un autre châtiment les attend, et pire encore.
Voilà l'islam. Il n'est ni paix, ni amour, ni tolérance. C'est la terreur. C'est le fléau de l'humanité. Ça, c'est sûr et certain. Alors, au sujet de trancher les mains aussi, il est écrit, par exemple, chapitre 5, verset 38, « Tranchez les mains du voleur et de la voleuse. Ce sera leur récompense. » Où est la tolérance dans le Coran? Où est la tolérance dans l'islam? Il n'y a pas tolérance en islam, sauf quand ils sont faibles, sauf quand ils sont pauvres. Oui, mais quand ils deviennent forts, riches, l'autre doit être balayé. Et je suis convaincu, si l'Iran a nucléaire, eh bien, il va déclencher la troisième guerre mondiale, en commençant par Israël. Je suis sûr et certain. Il faut prendre au sérieux leurs paroles, parce que eux, ils ne blaguent pas. Attention. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam.
Je vais vous avouer, Père Samuel, selon Nostradamus, ce serait un musulman qui déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Je ne crois pas que ça soit... C'est quelque chose qui est fort probable. Hein. Il cherche constamment à foutre la merde. Faut pas blaguer la déçue, parce que si on regarde les attentats du 11 septembre, ils ont fait de belles menaces et ils ont mis leur truc à exécution, Joanne Bourlard et Père Samuel, n'est-ce pas?
Ça, nous sommes convaincus, parce que dans le passé, l'islam n'avait pas techniquement été faible. Maintenant, techniquement, ils ont ordinateur, internet, GSM, des avions, Et quand ils deviendront forts, ça c'est sûr, vous avez, je suis absolument d'accord, ils vont déclencher la troisième guerre mondiale par un musulman, je suis sûr et certain. Et je suis étonné de la naïveté de nos gouvernements, des dirigeants européens ou canadiens.
Père Samuel, ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'argent. C'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont maintenant de l'argent, ils mettent beaucoup d'argent dans les coffres du gouvernement. Et le gouvernement adore travailler avec avec ces gens-là qui sont rendus très forts sur le plan financier autant que les juifs sinon plus et voilà pourquoi on écoute et qu'on a l'impression qu'on les écoute beaucoup nos dirigeants sont corrompus nous avons l'impression et nous le petit contribuable nous les contribuables moyens hein le petit contribuable Joanne Bourlard et Père Samuel. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas que notre voix, nos voix ne sont pas entendues, mais c'est pour une simple et bonne raison. C'est à cause, encore là, de l'argent. Ces gens-là se sont, mis à plusieurs pour amasser de grosses fortunes, pour faire en sorte que, par exemple, l'argent ne fait qu'entrer chez eux, mais ne ressort jamais. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas nos produits, mais achètent que leurs produits. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, je présume. En bout de ligne, on se retrouve à une situation qui est, eux s'enrichissent, mais ne remettent jamais leur richesse ou viennent pratiquement jamais acheter de ce que nous fabriquons. Nous achetons souvent d'eux pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est des vêtements, pour ce qui est de plein de choses. Et après ça, on se demande comment se fait-il que les gouvernements ont tendance à avoir l'oreille tendue vers eux, mais non pas vers nous. Alors, voilà. Il est 8h50. Je vous remercie, Joanne Bourlard, encore ce matin. Et même chose pour le Père Samuel, d'être venu si gentiment expliquer encore plusieurs segments de l'islam. La semaine prochaine, on vous attend toujours à la même heure. Même heure, même poste, Joanne Bourlard et Père Samuel. Merci à vous deux.
Merci, Ismaël. Nous vous remercions.
C'est toujours un honneur pour moi de vous accueillir à chaque lundi. Pour venir expliquer comme il faut comment peut-on vraiment analyser la situation ensemble. Et à la semaine prochaine, voilà.
Merci Ismaël, au revoir.
Au revoir. Alors c'était Joanne.